Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il est loin l'été prochain. Enfin, pas tant que ça, si on plonge dans le nouvel album d'Agustín Galeana, l'irrésistible Latin Lover que nous a offert l'Espagne et dont la télé française fait son miel. Agustín Galeana joue, il est l'une des stars de Clem sur TF1, il danse et fort bien puisqu'il a remporté Danse avec les stars et il chante avec autant de bonheur, preuve en est son nouvel album baptisé Plein Soleil qui prolonge l'été en ce début d'automne sinistre. Bref, Agustín Galeana est un remède à l'amorosité et on a une heure pour vous le prouver.
Europe 1.
Allez, on part en balade avec lui. Bonjour Agustín.
Bonjour, comment tu vas ?
Extrêmement bien.
Comment vous allez ?
Oui, on va essayer le vouvoiement, on va voir si on tient. Bon, Agustín Galeana, a-t-on plus à prouver quand on est beau ? C'est compliqué d'être légitime quand le physique s'impose avant même qu'on ait commencé à parler, à jouer, à chanter, à danser ?
Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on pense toujours que les gens qu'on est, moi j'ai dit les gens qu'on est gracieux physiquement, on pense toujours qu'on est bête ou qu'on n'est pas des bons professionnels. Et moi j'ai vécu ça depuis la première école que j'ai fait d'interprétation. Et j'ai dû beaucoup travailler, énormément travailler. J'ai fait 4 écoles d'interprétation, j'ai beaucoup bossé pour prouver justement les contraires.
Alors vous dites, je ne me vois pas du tout comme un séducteur, en fait vous voyez comment ?
Bah, je me vois comme un mec normal, j'ai 40 ans, je suis un Espagnol
normal,
qui vit à Paris, qui a un travail.
Voilà, un travail normal, pas
bah,
tant
pour
que
moi,
ça,
oui.
Star de la télé. Bon, et alors je continue sur le mode de la séduction. En même temps, Agustín, vous confiez que peut-être il y a un besoin de séduire, en fait, lié à votre histoire intime qui remonte à la petite enfance, puisque vos parents se sont séparés quand vous étiez très très jeune. Donc, sourire, rayonner, positiver, c'est devenu un réflexe pour rassembler.
Oui, c'est devenu mon destin. C'était ma façon de faire que ma mère, par exemple, elle soyait pas triste. Ou par exemple, comme mon grand-père, il est parti quand j'avais 1 an. Ma grand-mère, elle s'est accrochée à moi parce que j'étais le bonheur, j'étais... Le deuxième petit enfant qu'elle avait. Et ça, c'est arrivé aussi avec ma maman parce qu'elle a perdu un enfant avant moi.
Oui.
Et du coup, je pense que ma mère, elle s'est accrochée à moi quand je suis né et je suis devenu son bonheur. Donc, quelque part, ce destin de faire du bien aux gens, ça a été toujours écrit dans mon histoire depuis tout petit.
Agustín Galeana, pourquoi le succès a-t-il été presque immédiat en France, alors qu'en Espagne, malgré 2 pièces de théâtre, 2 films, 2 albums, vous êtes resté près de 4 ans à vous interroger sur votre avenir.
Pour moi, ça a été la magie. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. J'ai eu la chance de décider de quitter mon pays, de tout risquer, de me mettre en danger et de lâcher prise. Parce que quand je suis arrivé en France, il y a 8 ans, je ne parlais pas un mot de français. Et moi, je savais, j'étais certain que j'allais jamais travailler comme comédien, comme artiste. Jamais. J'avais lâché prise.
Au mieux, alors vous espériez quoi ?
Au mieux, j'espérais travailler ce que je faisais. Je faisais des visites guidées à Paris. Moi, je voulais faire un travail, n'importe lequel, pour continuer à vivre, à survivre.
Mais alors, restons un petit moment en Espagne. 4 ans sans vivre de son métier, puisque vous étiez artiste, vous étiez comédien, c'est quand même très long. À part espérer et rêver, vous avez fait quoi pendant ces 4 années d'attente ?
Bah, je suis devenu moteur de mon métier artistique. C'est-à-dire, j'ai produit 2 albums là-bas, j'ai produit des pièces de théâtre,
vous
j'ai
voulez
mis
dire
de l'argent.
Autoproduit ?
Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai mis de l'argent pour faire des pièces de théâtre que j'ai mis en place dans des salles de spectacle. Et j'ai fait 2 films indépendants, j'ai fait des courts-métrages, j'ai mis de l'argent pour faire ça aussi. Et au bout d'un moment, j'avais plus d'argent. Et je me suis dit, soit tu pars, soit tu crèves. Et j'ai décidé de partir.
Alors, Agustín Galeana, j'ai appris qu'en Espagne, le statut d'intermittent du spectacle n'existe absolument pas. En France, on trouve souvent que les intermittents ne sont pas assez pris en charge, mais en Espagne, les artistes sont des orphelins sans aucune aide de l'État. En plus, vous dites qu'en Espagne, eh bien, on va moins au théâtre, moins au spectacle, moins
c'est
au concert. Pourquoi ?
Je pense qu'on n'est pas élevé, éduqué dans la culture d'y aller aux salles de spectacle, de se nourrir du théâtre, des concerts, des expositions. J'ai l'impression que là-bas, on est manipulé par l'État pour ne pas mettre en avant la culture. Et ça marche très bien. Ils le font très très bien.
Hélas, en Espagne, une place
Madrid,
de théâtre coûte beaucoup plus cher qu'en France.
Non, c'est même moins cher.
Et pourtant, il y a moins de public. Donc.
Oui, parce qu'il y a moins de... On est moins élevé, moins éduqué pour ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des artistes très bons en Espagne. On est très bien formés. Moi, je suis formé dans les jeux, dans les chants, dans la danse. On est formé comme ça. On a une formation complète.
Alors, Agustín Galeana, je voudrais savoir ce que l'on met dans sa valise quand on décide de quitter son pays sans retour.
Tu veux que je te le dise ?
Oui, que met-on dans sa valise ?
Ben, on met beaucoup de courage, beaucoup d'illusions et 1000 euros. C'est comme ça que je suis arrivé à Paris.
Et avec 1000 euros, on se dit, il va falloir que je tienne deux mois, trois mois ?
Ben, je ne savais pas. Il y a mes parents qui m'ont aidé au début et un très bon ami que je connais depuis 20 ans à Paris qui m'a logé. Et c'est comme ça que j'ai démarré à Paris.
Alors, il a ressemblé à quoi le premier mois passé à Paris ? Vous dormiez où, Agustín Galeana ? Que faisiez-vous de vos journées sans comprendre un mot de notre langue ?
Bah, j'habitais chez mon pote, Fabrice. Et après, j'essayais d'aller beaucoup au cinéma. J'entendais beaucoup la radio. J'écoutais beaucoup des chansons pour habituer mon oreille.
Pour vous immerger dans la petite musique de notre langue.
Bah oui, parce que j'avais besoin d'habituer mon oreille aux sonorités françaises qu'on n'a pas en espagnol. Et du coup, j'allais 4-5 fois par semaine au cinéma et j'entendais tout le temps de la musique française.
Et puis à Paris, il n'y a pas le soleil d'Alicante.
Non, il n'y a pas le soleil d'Alicante et les sourires des Espagnols non plus. Parce que c'est une ville très très difficile quand tu arrives. Quand tu arrives pour étudier, c'est une chose, mais moi je suis arrivé avec 35 ans, je n'avais pas de boulot, je ne connaissais personne, je ne parlais pas la langue. Je pouvais aller à la boulangerie et dire « doux baguette » avec « doux ». Je ne savais même pas qu'il fallait dire « de ». Tu vois ce que je veux dire ? C'était un mois très 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 difficile pour moi.
Alors, au bout de combien de temps avez-vous décroché un job de guide touristique dans la capitale ?
6 mois après. 6 mois après, j'ai décroché ce métier qui m'a fait beaucoup de bien.
En 6 mois, on a vraiment le temps de se dire « Allez, je la refais la valise pour rentrer chez moi ».
Oui, et je le refais plusieurs fois.
C'est vrai ?
Ouais, mais finalement, il y avait quelque chose qui me faisait rester à Paris. Et du coup, je retrouvais ce travail qu'on m'a proposé. Pendant 2 mois, j'étudiais l'histoire de la France et de Paris comme un fou. Et je me suis mis à faire des visites guidées à Paris, dans plusieurs quartiers, à Versailles. Et j'ai raconté l'histoire de la France.
Pour les touristes espagnols, puisque vous ne parliez pas encore français.
Ouais.
Donc vous êtes devenu un spécialiste du Louvre et du château de Versailles, dont vous racontiez.
Et du musée d'Orsay, du quartier latin, de Montmartre, de toute la Seine. Faire une visite guidée à Versailles dès 5 heures, il faut parler, hein. Il faut bien connaître.
J'imagine qu'avec votre charme, vous deviez avoir foule autour de vous pour raconter l'histoire du Louvre.
C'est pas le charme, c'est que moi, la France, c'est un pays qui m'a fait toujours rêver. Il y avait quelque chose en moi de vouloir venir en France. Parce que mon papa, il était pour des Français, mais il ne m'avait jamais parlé un mot de français. Du coup, ça m'a toujours attiré le fait de ne pas l'avoir, tu vois, de ne pas entendre, de pas. Le mystère de mon papa, il parle français, mais il ne parle jamais français à la maison. Pour moi, c'était bizarre. Et du coup, quand j'arrive et je me plonge dans la culture française, j'adore l'histoire. Et du coup, je raconte l'histoire comme un comédien. Non, mais c'est vrai.
Eh bien, c'est votre histoire à vous qu'on va continuer comme ça de dérouler à Agustín Galeana, star de TF1, mais pas que. On fait une pause très courte. On le retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Cher Agustín, quand on apprend une nouvelle langue à l'âge de 34 ans, bah, évidemment, il est difficile de se défaire de l'accent et de la petite musique de sa langue maternelle. Alors, cet accent espagnol, vous avez tenté de l'estomper ou bien vous êtes dit que finalement, ce serait votre signature ?
Non, je tente encore.
Non.
Bah oui, évidemment. Évidemment, moi, les cours de diction, d'articulation et mon travail interne pour parler à chaque jour un peu mieux, et c'est quelque chose que je vais devoir faire toute ma vie. Parce que ma bouche et ma langue, il revient aux habitudes espagnoles.
Voilà.
Et du coup, c'est un travail que je ne pourrais jamais quitter. Et même si j'essaie...
Vous travaillez avec un coach ?
Oui. Oui, quand j'ai des longues séquences et des gros scénarios, oui. Pendant ma vie normale, de tous les jours, non. Mais sinon, oui. C'est très important pour moi.
Alors effectivement, cet accent, Agustín Galeana, c'est celui des tout premiers mots que vous avez prononcés dans votre ville de naissance, près d'Alicante. Alors Alicante, ville portuaire de la Costa Blanca, une sorte de paradis posé en fait au bord de la Méditerranée avec une végétation luxuriante, des plages immenses. Bon, Alicante, le nom fait rêver. Vous habitiez une petite ville, n'est-ce pas ?
Oui, juste à côté.
À la périphérie d'Alicante.
Juste à côté.
J'ai vu les photos hallucinante de maisons de toutes les couleurs.
Oui, c'est très joli.
C'est absolument prodigieux. On dirait qu'on est dans les Caraïbes.
En fait, ça pourrait être un peu le Caraïbes de l'Espagne, parce que franchement, les plages, elles sont magnifiques. Dans ma ville, on a 14 km de plages vierges. C'est une petite ville de 30 000 habitants où il y a un quartier historique au bord de la mer avec des maisons plein couleurs. Et à l'époque, parce que c'est une ville de pêcheurs,
oui,
c'était les pêcheurs qui ont peint les maisons pour voir depuis la mer si sa maison elle était allumée ou pas.
D'accord, donc voilà. Chacun choisissait la couleur la plus éclatante, voilà, une espèce de turquoise, orange gorgée de soleil pour pouvoir la repérer.
C'est ça.
En rentrant sur son bateau, c'est génial. Bon, vos parents étaient tous les deux dans l'enseignement, mais avec des disciplines très différentes, n'est-ce pas ?
C'est ça. Mon papa, il était prof de français.
Oui.
Et ma maman, qu'elle a pris la retraite cette année, elle était prof pour des enfants avec des besoins spéciaux, c'est-à-dire trisomiques, autistes, des enfants avec des situations familiales très compliquées. Elle a travaillé aussi dans des écoles où il y avait des ghettos gitans et tout ça. Donc voilà, j'étais toujours très sensibilisé par rapport à toutes ces maladies et par rapport aux problèmes familiales des gens.
Pourquoi votre père, professeur de français et amoureux de la France, vous nous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, pourquoi ne vous a-t-il jamais enseigné cette langue qu'il enseignait aux autres ?
Je pense qu'il en avait marre de parler à l'école. Et du coup, quand il rentrait, il n'avait pas envie de parler en français. J'imagine que c'est ça. Je ne l'ai jamais demandé, mais j'imagine que c'était ça.
Donc la France, avant de la découvrir, vous l'avez fantasmée en fait ?
Oui, énormément.
Mais il vous en a parlé de la France.
Il m'en a parlé.
Parce que vous auriez pu.
Il m'a ramené des cadeaux aussi de la France.
Vous auriez pu choisir d'aller en Italie, d'aller en Angleterre, par exemple.
Oui, mais ça m'a ramené ici. Je ne sais pas, j'ai trouvé que le français, il y avait quelque chose de mystérieux. Il y avait quelque chose qui m'a rappelé peut-être à mon enfance, quand mon papa, il habitait à la maison. Donc, je pense qu'il y a des accroches comme ça qu'on fait, des accroches intérieures, qu'on ne sait pas pourquoi, mais il y avait un cumul des choses qui m'ont ramené ici.
Agustín Galeana, vous aviez 14 ans lorsque votre maman, pour la première fois, vous a emmené voir un ballet de danse classique. Ce fut mieux qu'un éblouissement, une révélation.
C'est vrai.
Quand vous êtes sorti, vous avez déclaré à votre mère que vous saviez ce que vous vouliez faire dans la vie.
Oui, oui.
Et alors là, ont commencé les problèmes, parce qu'elle n'était pas du tout d'accord, c'est
pas ça ? Pas du tout. En fait, je suis sorti, je me suis tourné, on a sorti de le spectacle, je me suis tourné vers elle et je lui ai dit « c'est ça que je veux faire, c'est ça ». Et ma maman, elle m'a dit « mais pourquoi tu veux faire ça ? Mais tu danses déjà très bien, allez arrête, on y va, à la maison ». Tu vois ?
C'est encourageant.
Et du coup, oui, mais on vient d'une petite ville, tu vois, il n'y avait pas un seul garçon qui dansait là-bas. Les métiers artistiques, ils ne sont pas très bien vus, tu vois, ils n'étaient pas très bien vus à l'époque. Et mes deux parents, ils étaient les deux profs, ils s'étaient battus pour avoir des études universitaires. Et ma maman et mon papa, ils voulaient que je fasse la même chose. Et du coup, à mes 18 ans, j'ai dit, maintenant, j'ai fait des études.
Voilà, exactement, voilà. Pour les rassurer en fait.
Ouais.
Donc, après le bac, vous avez commencé des études de biologie.
C'est ça.
Et vous êtes inscrit, ce dont vous aviez depuis 4 ans, à un cours de danse. Or, il était trop tard. On ne commence pas, Agustín Galeana, la danse à 18 ans. En tout
Jamais.
Cas, on ne commence pas la danse classique
la
à
danse
cet âge-là.
Classique. Moi, je voulais faire de la danse classique et commencer de la danse classique aux 18 ans, c'est très compliqué pour une personne des 18 ans. Ce n'est pas possible.
Avez renoncé au bout de combien de temps ?
Un an. Un an et demi, c'était bon pour savoir que je ne pouvais rien faire là.
Et les professeurs vous ont dit effectivement qu'il n'était pas nécessaire de...
Je le sentais dans mon corps.
Oui.
Mes articulations, elles ne bougeaient pas comme ils devaient. Elles étaient déjà formées. Elles n'étaient pas déformées en fait. Parce que pour devenir danseur classique, il faut commencer très tôt pour effectivement pouvoir mettre en place toutes les articulations et tous les tendons.
L'ouverture du bassin, des pieds, le coup de pied, l'en dehors.
C'est tout ça.
Vous ne seriez devenu, Agustín Galeana, ni comédien, ni chanteur, si vous aviez commencé la danse classique à l'âge requis. Cette passion, vous pensez qu'elle aurait tout recouvert, tout emporté ?
Ouais.
Vraiment ?
Ouais, parce que j'avais très très envie. En fait, j'ai dansé depuis tout petit. Je me rappelle qu'on faisait avec des copines à l'école, à la sortie, on allait danser avec les cassettes, tu vois, sur les patios de ma pote, on faisait des choses que maintenant... Les gamins des 8-9 ans, ils font pas, quoi. Tu vois, je danse depuis tout petit parce que c'était mon rêve d'enfant. Mais aujourd'hui, comme tu as bien dit, je suis qui je suis par rapport... Parce que j'ai eu cette frustration et beaucoup d'autres, tu vois.
Agustín Galeana, vous auriez pu devenir également biologiste puisque vous avez entamé ces études-là. Vous avez décroché un diplôme ?
Oui, dès 3 ans.
Eh bien...
Alors, j'étais diplômé en biologie, oui.
Alors, diplôme de biologie en poche ? Vous êtes donc parti à Madrid pour prendre des cours de théâtre.
Oui.
Et très vite, on vous retrouve sur les planches de Roméo et Juliette.
C'est ça.
Bon, j'imagine que Roméo, c'était vous.
Non.
Non,
non, non, non, non, j'étais Mercutio. J'étais Mercutio.
Mais qu'est-ce que c'est que ce directeur de casting?
Bah, c'était génial parce qu'en fait, il avait fait une version où Roméo, Juliette et Mercutio, ils étaient ensemble tous les trois.
Ah d'accord.
C'était un triangle
très,
amoureux.
Très novateur.
Très innovateur. Oui.
D'accord. Mais alors, le diplôme de biologie, j'imagine que ça avait enchanté vos parents.
Oui.
Je voudrais bien savoir comment ils ont réagi, vos parents, à ce changement d'aiguillage, parce qu'ils pensaient que sûrement les études de biologie allaient calmer votre fibre, votre nature artistique, non?
Oui, mais ma mère, elle avait besoin de se rattraper. Et c'est elle qui m'a proposé de partir à Madrid, hein, faire de l'interprétation et devenir comédien.
Vous voulez dire que votre maman a fait un transfert,
ouais,
en fait, sur vous?
Oui. Ma maman, elle a vu une annonce sur un journal et c'est elle qui m'a proposé d'appeler, de passer une audition pour une compagnie de théâtre, que c'était celle-ci, la Fondation Shakespeare d'Espagne. Et c'est là où j'ai fait mes premiers pas sur les planches, grâce à ma mère.
Alors, la télévision espagnole vous a repéré, vous avez intégré plusieurs séries, mais la crise économique a pulvérisé beaucoup de choses en Espagne il y a 10 ans.
Et ma carrière aussi.
Et votre carrière, voilà. Et en creusant, eh bien, j'ai vu ce chiffre absolument hallucinant. Plus d'un million d'Espagnols ont quitté leur pays, dont vous, Agustín Galeana. On oublie souvent ce chiffre, hein. Plus d'un million d'Espagnols ont fui
c'est
à l'étranger.
Énorme.
Comment se porte l'Espagne aujourd'hui avec, en plus, ce Covid qui n'arrange rien? Mais votre pays, comment va-t-il?
Il va très mal. Il va très mal parce qu'en Espagne, on a un problème. Ils sont toujours en train de se battre d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire, on est encore dans une Espagne où les franquistes, ils se battent avec les républicains pour faire quelque chose. Et ils s'agressent les uns aux autres, mais franchement, ils font rien de bon pour le pays. C'est vraiment dommage parce que je pense que l'Espagne, c'est un très beau pays. On est des gens très sympas, on est des gens qu'on aime la vie, qu'on aime travailler, qu'on aime pousser les choses en devant. Mais là, on vit un moment vraiment pénible. Vraiment.
On fait une pause très courte et bien sûr, on retrouve Agustín Galeana. En cet automne si stressant et si gris, bah, y a un cadeau à se faire. Tout simplement le nouvel album d'Agustín Galeana, baptisé Plein Soleil, qui effectivement regorge de la lumière du Sud avec des reprises absolument épatantes. Et cet après-midi, on se balade en compagnie d'Agustín. Alors, on reprend le fil de votre très étonnante histoire, Agustín. Quand vous débarquez à Paris, à l'assaut d'une nouvelle vie, donc sans parler un mot de français. Parmi les petits boulots que vous avez effectués, tout en passant bien sûr des castings, eh ben, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y avait celui de guide touristique. Alors, on a évoqué le Louvre que vous faisiez découvrir aux touristes espagnols. On a parlé voilà, de tous ces monuments, ces lieux emblématiques du patrimoine français pour lesquels vous avez joué à l'historien. Et parmi ces touristes, j'aimerais savoir, puisqu'ils étaient espagnols, personne ne reconnaissait quand même la jeune vedette que vous aviez été pour la télévision en Espagne?
Ça m'est arrivé en 2 ans et demi, ça m'est arrivé 2 fois.
Alors que vous ont-ils dit?
Bah, ils m'ont dit, mais c'était toi qui jouais dans cette série, tu vois, dans une série que je faisais avec Carmen Mora, que vous connaissez très bien ici en France. Mais moi, ça faisait déjà...
Carmen Mora, mais dit
oui,
avec l'accent espagnol,
Carmen,
effectivement.
Carmen Maura,
voilà,
Carmen
l'une des muses d'Almodovar.
Oui, c'est ça. Et du coup, ça faisait 6 ans que je ne travaillais pas à la télé espagnole, donc les gens, on oublie vite. On oublie très très vite.
Mais c'était récent d'être reconnu comme ça?
Oui, mais c'était pas l'important pour moi. J'avais lâché prise, j'avais oublié. Moi, j'étais à Paris, j'étais en train de découvrir une très jolie ville. J'ai parlé des monuments, j'avais des gens qui adoraient entendre l'histoire de la France et de Paris. Et c'était tout ce qui m'intéressait. Gagner un peu d'argent, vivre et continuer ma vie, quoi.
Alors, Agustín Galeana, on raconte qu'à l'époque, vous avez débuté dans Clem sur TF1. Vous avez continué à effectuer donc, vos visites guidées. Et là, franchement, j'ai du mal à y croire. C'est une légende de biographe, ça.
Non, c'est vrai. Moi, j'ai fait
on
la
vous
première...
voyait en prime time,
oui,
sur la Une, dans
oui,
Clem,
oui,
et le lendemain matin, on pouvait vous voir au château de Versailles en
oui,
train de
oui,
raconter l'histoire s'arrêt... du château.
Et les gens s'arrêtaient dans la rue, c'était très drôle, et à un moment donné, j'ai dû arrêter les visites guidées, parce que c'était plus possible. Mais moi, j'avais très très peur. Moi, j'ai passé toute la première année que j'ai tourné Clem, j'ai passé le premier mois à me dire, bon... C'est demain quand on va te virer, on va te dire que t'es très mauvais. Donc ils vont dire, on va refaire tout parce qu'Agustín il est très mauvais. C'est les 4 ans que j'ai passé des galères que personne ne m'appelait qui m'a fait penser ça. Quand t'es artiste, t'es pas rassuré
vous
par le travail.
Vous doutiez à ce point de
moi,
vous.
Je doute encore aujourd'hui. Ces 4 ans, ils m'ont fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Par rapport à la sécurité qu'on a les artistes.
À Alors, le casting réussi de Clem pour TF1, il a changé votre vie. La production voulait trouver celui qui, idéalement, pouvait jouer donc le fils de Victoria Abril. Victoria Abril, énorme star dans votre pays, puisque égérie d'Almodovar, avant Penélope Cruz. Et ce qui est surprenant, c'est que, en fait, vous n'avez pas souhaité rencontrer Victoria Abril avant le premier jour de tournage. Pour quelle raison ?
Ça tombe à l'envers. C'était elle qui ne voulait pas me rencontrer.
Mais pourquoi elle ne voulait-elle pas ?
Parce que mon personnage, c'était un personnage qui arrivait depuis 30 ans. Elle avait accouché sous X, son fils, elle l'avait abandonné, il l'avait laissé en Espagne, elle avait quitté l'Espagne, et son fils revient à la recherche de sa mère 30 ans après.
Et donc, du coup, sur le plan émotionnel, elle voulait être raccord avec le scénario.
Elle ne voulait pas me voir, elle voulait croiser un moment avec moi avant de la première séquence qu'on avait ensemble.
Pour être totalement surprise devant la caméra.
C'est ça. Elle n'avait même pas voulu voir mon casting et voir ma photo. Elle n'avait rien voir.
Alors, étant donné que vous étiez donc les deux Espagnols de cette série française, j'imagine qu'une complicité singulière s'est tissée entre Victoria Abril et vous au fil des ans sur le tournage de Clem. Comment avez-vous réagi à l'éviction de Victoria Abril? Car il paraît que ce n'est pas elle, n'est-ce pas, qui a choisi de quitter la série. Officiellement, les scénaristes ont raconté qu'ils n'avaient plus d'idées pour faire vivre son personnage. C'est un aveu qui peut paraître cruel, ça.
Oui, mais pour moi, ça a été vraiment triste. Parce que moi, c'était une comédienne que j'admirais. C'était quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. J'ai beaucoup appris d'elle. Chaque séquence, c'était un cours d'interprétation et moi, je le remercie, tout ce que j'ai appris, tous les conseils qu'elle m'a donnés. Elles m'ont aidé à faire de mon personnage un personnage avec du volume, avec de la profondeur. Je le remercie beaucoup.
Augustine Galliana, dans ce métier, puisqu'on évoquait justement cette éviction de Victoria Abril, faut toujours finalement avoir un coup d'avance, n'est-ce pas ? Il ne faut jamais considérer le succès comme un confort acquis. Un comédien dépend de trop de gens pour ça.
Oui.
Pour être sécure.
Donc c'est vrai.
Vous nous disiez tout à l'heure, mais je doute toujours. Bon, vous doutez par rapport à ce qu'on attend que vous livriez, mais il y a aussi comme ça les avis des productions qui peuvent changer.
Évidemment.
Les goûts, le public qui s'entiche soudain de quelqu'un et puis détourne le regard.
Pour moi, il n'y a rien qui est acquis. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir du succès. Moi, je travaille. Et parfois, mes amis, ils me disent « Mais tu te rends pas compte de là où tu es ?» Et j'ai dit « Bah non, je me rends pas compte. » J'ai la chance d'être très bien entouré. Et j'ai des très bons agents. J'ai des amis qui prennent soin de moi, qui font partie de mes équipes. Et c'est ça le plus important.
Augustine Galliana, avez-vous le sentiment qu'un chanteur est plus libre ? Puisque désormais, vous êtes chanteur aussi. Vous pensez qu'un chanteur est plus libre qu'un acteur, qu'un comédien ?
Non. Je pense que les artistes, on n'est pas libres. Je pense que les artistes ont fait ce qu'on nous permet faire. Mmh. Toujours. Parce que c'est un métier très difficile. Moi, j'ai eu un coup de chance. Moi, je ne pense jamais que c'est à cause de moi. C'est drôle, mais je pense que ce n'est pas à cause de moi.
On répète toujours au public que c'est lui qui choisit. Mais encore faut-il que le public, on lui donne à voir pour qu'il puisse choisir, n'est-ce pas ?
Oui, évidemment. Et du coup, si t'es pas choisi, t'es dans la merde.
C'est tellement plus joli dit en espagnol. On fait une pause, on retrouve tout de suite Augustine Galliana.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
La télé française a fait son miel du bel espagnol Augustine Galliana, qui est l'une des stars de Clem sur TF1, a remporté Danse avec les stars et sort un nouvel album comme un hymne à l'été, album baptisé Plein Soleil. Alors, chère Augustine Galliana, lorsque vous retournez en Espagne, voir votre famille et vos amis, comment vivez-vous le fait de redevenir anonyme ? Alors qu'en France, vous êtes si populaire. Bon, bien sûr, nul n'est prophète en son pays, mais tout de même, vous vous sentez mal aimé en Espagne ? Rejeté ? Vous vous sentez incompris ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Au début, oui. Quand on ne m'appelait pas pour travailler, évidemment, tu te sens mal aimé, tu te sens que tu es un mauvais professionnel, tu sens que tu ne seras rien comme artiste parce qu'on ne t'appelle pas. Et maintenant, quand je rentre chez moi, je redeviens un inconnu, Mais dans ma ville, c'est plus possible parce que tout le monde me connaît, tout le monde sait ce que j'ai fait ici. Tout le monde a les couves des magazines, tout le monde sait que j'ai remporté en 2017 Danse avec les stars. Tout le monde sait que j'ai fait
on
Clem.
On regarde TF1
non,
en Espagne
non, ils ne regardent pas. Ma famille, oui, parce que je suis sur beaucoup de projets chez TF1. Mais je ne suis plus un inconnu dans ma ville. Quand j'y vais à Madrid voir mes potes, oui. Et ça fait vraiment plaisir aussi.
Alors, vous avez deux frères. Quel regard portent-ils sur tout ce que vous avez entrepris ici en France? Ils ont suivi votre ascension sur TF1, donc, mais ils ont pris la mesure vraiment de l'explosion de votre popularité quand vous avez remporté Danse avec les stars?
Ah oui, oui, ils se sont bien rendus compte. Mais au début, quand je suis parti d'Espagne, ils ont pensé que j'étais fou, quoi. Tu pars dans un pays, tu pars pas la langue, t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tu vois? Mais voilà, comme j'ai eu toujours des idées folles, donc ils m'ont laissé vivre, ils m'ont laissé faire.
Est-il vrai que pendant
Et aujourd'hui, pardon, ils sont très très fiers de moi.
Bah, j'imagine. Est-il vrai que pendant la compétition de Danse avec les stars, en fait, Agustín Galeana, il faut que j'arrive à bien prononcer votre prénom.
Tu le fais très bien.
Vous êtes passé de 4000 à 400 000 followers.
Oui, ça a été énorme.
Magie de la télé.
Ouais. La télé, le travail.
Et
parce
le
qu'on
travail.
On a beaucoup répété hein, pour bien danser. Mais j'avais tellement envie. J'avais tellement envie de... Quand Tom m'appelait de cette émission, j'ai dit tout de suite oui. Parce que pour moi, la danse, c'était... Pour moi, c'était mon destin. Pour moi, c'était l'objectif de ma vie. Mais j'ai eu une très belle revanche de la vie avec cette émission.
Alors, parlons de cette émission, justement. Le défi le moins visible, mais sûrement le plus redoutable, c'était en fait d'avoir trois vies parallèles pendant cette compétition de Danse avec les stars. Parce que chaque jour de la semaine, vous aviez 6 heures de répétition de danse.
Oui.
Mais avant et après... Et le week-end, vous tourniez des séries pour la télé et vous enregistriez un album. Donc en fait, vous aviez des journées de 20 heures,
oui.
20 heures de boulot,
oui.
Chaque jour pendant 2 mois et demi.
7 sur 7, c'était incroyable.
Ne dites pas que vous n'avez pas craqué.
Ouais. Non.
Vous n'avez pas craqué.
Non, à ces moments-là, non.
Vous carburiez à quoi?
Bah, je sais pas, j'ai une énergie folle dans moi qui me fait tout faire, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas craqué. Je suis pas à l'abri d'un craquage, mais c'est vrai que je sais pas si ça a été l'année dernière ou celle d'avant, j'ai eu un moment que j'ai cru que j'avais eu un burn-out parce que j'avais plus envie de me lever de mon lit et j'avais plein de boulot à faire et j'adore mon travail, mais j'étais étouffé. Mais bon, c'est comme ça.
Agustín Galeana, Danse avec les stars, c'est donc une compétition qui offre une visibilité absolument fabuleuse aux candidats, qui se retrouvent soudain en une de tous les journaux de télé, et puis de la presse people. Mais quand même, j'imagine que ça crée une tension. Alors je voudrais savoir si c'est une tension palpable entre les candidats qui s'observent, qui s'épient, peut-être pour certains qui se jalousent, qui copinent avec la production, ou bien pas du tout. Comment en réalité, et l'ambiance en coulisses?
Entre les copains, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette tension de la compétition. La compétition, c'est avec toi-même. Parce que...
Il est très diplomate.
Non, je te jure, j'ai jamais eu un trac comme celle que j'ai eue dans Danse avec les stars. Tu arrives, tu fais la répétition, tu vas dîner et on te dit, une demi-heure après, c'est toi qui ouvres les balles. Là, je t'ai dit que les boules, tu les as là. Hein. Comme une cravate.
Parce qu'on ne sait pas.
On ne sait pas.
En fait, jusqu'au
jour.
Une heure avant, on ne sait pas.
Non, une heure avant, 2 heures avant, on t'a dit aujourd'hui, tu ouvres le bal. Et c'était très compliqué. J'ai jamais eu tellement de tension pour faire quelque chose. Parce que moi, je ne suis pas danseur. Aucun des artistes danse. Donc, on fait quelque chose qu'on n'est pas habitué, que tu ne maîtrises pas. Et tu fais ça face à 5 millions de téléspectateurs. Et on voulait faire tous un beau spectacle. C'était très compliqué. On avait tous le trac. Même, on se soutenait les uns aux autres.
Formidable. Alors, après le final de l'émission, tout le monde, bien sûr, promet de se revoir. Mais qu'en est-il 2 ans plus tard, puisque vous avez remporté Danse avec les stars en 2018?
Oui, c'est
alors,
ça.
Les amis, pendant cette compétition, le sont restés ensuite?
Écoute, c'est très compliqué. Quand tu côtoies des artistes dans un projet, c'est parfois très compliqué de nous revoir comme ça. Parce qu'on est tous très pris. Mm-hmm. Très, très pris. Donc oui, là par exemple, j'ai croisé Tatiana Silva pendant le Télévis à Bruxelles, en Belgique. Et j'ai croisé Élodie Gossoin aussi sur l'émission radio qu'elle fait. Donc on se croise comme ça, mais c'est très compliqué.
Alors la comédie, la danse, le chant, le nouvel album baptisé Plein Soleil porte bien son nom, Agustín Galeana, parce que vraiment il infuse l'allégresse et la douceur solaire de l'été dans cet automne absolument sinistre. C'est un album de reprise et tous les titres résonnent en nous. Hein. Duel au soleil, l'amour à la plage, le soleil donne, le sud, viva la vida. Bon, le mot d'ordre est clair. Le mot d'ordre, en fait, c'est « et si on décidait d'être heureux ?»
Oui, c'est ça. En fait, on vit un moment tellement compliqué que je ne savais pas que cet album, quand les gens l'entendent, ils me disent « Non, mais ça nous fait du bien, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien. » Moi, je ne savais pas. Moi, j'ai fait cet album parce que j'avais une intuition par rapport à mon histoire. Mais je ne savais pas que cet album allait faire du bien et allait mettre la joie dans la vie des gens. Et c'est énorme.
Et puis, sur cet album, il y a des tubes du patrimoine espagnol comme « Porque te vas » ou « Piensa en mi ». Je ne sais pas si...
Très bien prononcé. Ah bah oui, c'est très bien.
Et puis, il y a une chanson absolument sublime de Cabrel qui, sur vos terres, en Espagne, Agustín Galeana va enflammer les esprits. C'est la corrida, la corrida dont le texte est certainement la plus belle plaidoirie anti-corrida jamais écrite.
C'est un texte magnifique. Je l'ai découvert pendant mes cours d'addiction, ce texte.
Ah vraiment?
Ouais. Et ça m'a tellement touché parce que moi, je suis anti-corrida. Je sais que c'est pas probable qu'un Espagnol soit comme ça, mais on est beaucoup de jeunes à penser comme moi. Et même si on a été habitué depuis tout petit à voir les samedis soirs, 2-3 corridas à la télé, hein, on les voyait. On voyait la mise à mort à la télé.
Carrément, la mise à mort, ça fait partie du spectacle et du show télévisuel du samedi soir en Espagne.
Oui, à partir des 16h, on avait ça à la télé. Et du coup, ça choquait personne. Sauf que quand tu réfléchis et t'es adulte, tu t'es dit, ça c'est pas possible quoi. C'est vrai qu'on tue des animaux pour manger, mais il n'y a pas 5000 personnes qui applaudissent autour de cette atrocité, de cette morte. Tu vois, ça change tout. Cet applaudissement change tout. Et du coup, cette chanson de Cabrel qui a une mélodie magnifique aussi, en même temps que le texte, moi, ça me met la chair des poules, le texte. Et ça fait vraiment plaisir de le chanter. Je me suis dit, il faut le mettre dans l'album parce que je trouve que c'est bien de raconter aussi et de faire passer des messages, pas chanter pour chanter, sinon chacune des chansons qu'on a dans cet album, elle a une petite anecdote dans ma vie où il y a un message que je pense que c'est important de le faire passer.
On écoute Agustín Galeana.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais se déplacer sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Mais j'ai bien fini par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie. Je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ces pantins, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, le faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Je m'incline. Ils sentaient doux ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.
Cette chanson de Cabrel, interprétée par Agustín Galeana, est la plus belle plaidoirie anti-corrida jamais écrite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Agustín Galeana, Votre nouvel album, alors on l'a entendu, on l'a bien compris, c'est un hymne au soleil, à l'été, plus encore à l'idée qu'on se fait de l'été parfait avec ce soleil au zénith qui donne la même couleur aux gens. Et il y a une destination au cœur des Caraïbes qui pour nous, Européens, reste un fantasme d'eau cristalline et de plage vierge, même si le régime politique y est rude, très rude. C'est Cuba. Cuba avec sa ville culturelle rythmée par la salsa et depuis les années 90 par le reggaeton qui mixe la techno, le rap, le reggae. Cuba, vous en rêviez, paraît-il, Agustín Galeana, et vous y êtes allé il y a 2 ans. Qu'est-ce qui vous a frappé et séduit à La Havane, vous qui venez d'un village qui n'a absolument rien à envier, justement aux villes cubaines.
Ah bah oui, évidemment.
Et à leurs
maisons
colorées.
Oui, maisons colorées. Et ma ville s'appelle la ville joyeuse. Villa Joyosa, c'est la traduction, c'est...
Ah
la
oui.
ville joyeuse. Oui, oui, oui. Mais La Havane, c'est magnifique. Il y a de la musique partout. Il y a des gens qui dansent partout. Moi, j'ai dansé même après manger un déjeuner. Il y avait des gens qui dansaient dans le restaurant. Et moi, j'ai dansé avec, avec la danseuse qu'il y avait.
Alors, on danse quoi? La salsa, le mambo? On danse
surtout
quoi?
La salsa.
La salsa.
C'est la salsa. C'est la salsa là-bas. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf.
On est redoutablement doué pour danser la salsa.
Bah, non, parce que t'apprends les chorés pour l'instant présent, mais après tu oublies tout. Mais franchement, c'était un pays que je rêvais de visiter. Et j'ai visité La Havane et j'ai fait un petit tour dans des petits villages. Et vraiment, l'accueil des gens, la musique, la joie de vivre, la simplicité, elles sont présentes de partout.
La jeunesse cubaine, elle est branchée sur le monde ou assez repliée, refermée sur elle-même?
Ils sont repliés, mais ils essayent de se brancher au monde. Ils ont très envie de savoir, ils ont très envie de sortir, ils ont très envie de se brancher à un petit réseau d'Internet pour avoir des nouvelles. C'est très compliqué là-bas, Internet. Ils ont tout coupé.
Ils ont tout coupé.
Ils ont tout coupé et d'ailleurs, tu prends...
Mais alors, comment... En fait, se raccrocher au monde en marche en 2020 si Internet est interdit?
Je sais pas, mais c'est très compliqué pour eux. En fait, quand je suis arrivé, ça m'a fait beaucoup de peine parce que le pays, La Havane, c'est une ville qui... C'est-à-dire, les bâtiments, ils sont pas soignés.
Oui,
ils sont très,
oui.
très beaux, mais ils tombent de partout. Les routes, elles sont très, très belles, mais pour aller d'un endroit à l'autre, il y a des routes faites aux années 60, aux années 40, 50.
Oui.
Et du coup, elles ne sont pas soignées. Du coup,
et
il y
les
a plein...
monuments, par exemple, qui ne sont pas
Tout.
Entretenus, ils datent en fait
ouais.
de l'époque où vos ancêtres,
ouais.
Agustín Galeana, ont investi, on va dire, colonisé, n'est-ce pas, La Havane, puisque en fait, ce sont les Espagnols qui sont arrivés là et ont planté le drapeau.
Ouais.
Donc, j'imagine que vous y êtes allé avec une sensibilité, une curiosité particulière.
Moi, je voulais aller danser. Je voulais vivre ça. moi, je voulais rencontrer ce pays énorme, ce pays gorgé de sonorités latines, gorgé de joie, gorgé de simplicité. J'avais très envie. Et comme j'ai une amie qui danse très très bien la salsa, elle m'avait promis de m'amener, elle m'a jamais amené, du coup je suis allé tout seul.
Vous y retournerez,
évidemment.
D'ailleurs, peut-être
bien.
Pour plus tard, à l'avenir,
j'espère
qui sait,
bien.
Enregistrer un album avec tous ces rythmes portoricains, avec...
J'adorerais.
Bon, Agustín Galeana, désormais, en tout cas, vous affirmez que votre patrie, votre terre, votre toit, eh bien, tout ça est symbolisé par la France. Et je vous ai même entendu confier « Jamais, pour rien au monde, je ne retournerai vivre en Espagne ». Ça, c'est une déclaration d'amour pour notre pays, qui est quand même cruel pour votre pays d'origine.
Non, parce que c'est pas cruel pour mon pays. En fait, c'est la France qui m'a rendu légitime. C'est la France qui m'a permis... devenir qui je suis aujourd'hui. C'est la France qui m'a permis de devenir le professionnel que je suis aujourd'hui, qui m'a permis d'apprendre une langue, qui m'a permis de gagner ma vie, de vivre. Je sais pas, la France et Paris m'a donné beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont fait me sentir bien, qui m'ont fait être l'homme que je suis aujourd'hui.
Alors, Agustín Galeana, allez-vous demander la nationalité française?
Oui, je veux. Je veux parce que, oui, je paye mes impôts ici, j'habite ici. J'ai envie de décider quelque chose dans ce pays. C'est pas possible que j'habite ici et que je peux rien faire. Je peux pas décider, au moins avec mon vote, si je veux... Tu vois ce que je veux dire?
Mais alors, vous avez dit à votre maman que vous aviez l'intention de demander un passeport français, Agustín?
Non, j'ai rien dit.
Parce que comment va-t-elle réagir? Elle va dire que c'est une trahison?
Bah non, c'est pas des trahisons. En fait, j'aurai les deux nationalités, mais j'ai besoin de décider quelque chose dans ce pays. C'est pas possible. Pour moi, c'est important. C'est mon pays aujourd'hui.
C'est votre
pays. Moi, quelque part, je sens que je suis à moitié français. Je sais pas comment te dire. C'est très bizarre. Les gens peuvent penser que je suis fou, mais il y a une journaliste espagnole qui travaille au sud de la France qui m'a dit « T'as fait quelque chose que j'ai pas encore fait ici en France. T'as trouvé ta personnalité française en étant espagnole. » Et moi, je trouve
c'est
ça très joli.
Ça.
C'est très joli. Parce que c'est vrai, moi, j'ai trouvé ma place ici. Je sais pas, les gens peut-être comprennent pas la situation que j'ai vécue en Espagne, mais j'ai senti que mon pays m'a rejeté. Je me suis exilié de mon pays. Je suis pas parti. Ils m'ont exilié. C'est différent. Et du coup, le fait d'arriver dans la France, un pays tellement beau, tellement que vous soignez la culture, vous êtes la plus grande industrie du cinéma de l'Europe, de trouver ma place ici, t'imagines qu'est-ce que c'est pour moi? C'est énorme.
Alors Agustín, j'imagine que vous avez prévu d'organiser une immense fête le jour où on va vous remettre ce qui symbolise ce lien si fort avec ce pays que vous aimez, mais qui vous aime, votre passeport français.
Je vais faire
français.
Une fête, hein.
Une méga fête, c'est ça?
Oui, je vais t'inviter aussi. Hein.
Formidable, je viendrai. On se retrouve tout de suite avec Agustín Galeana.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Agustín Galeana. Les Latin Lovers, alors je vais repartir de très loin, depuis Rudolf Valentino jusqu'à Enrique Iglesias, ont fait se pâmer sous leur regard de braise la gente féminine bien plus efficacement que les petits gars du Nord, hein, depuis toujours. C'est un constat. Bon, la séduction, elle a ses codes qui perdurent ou non, mais il faut bien avouer que le beau brun ténébreux plaît à toutes les époques. Alors, justement, on va parler séduction. Mais on va parler séduction d'un pays à un autre. Qu'est-ce qui diffère dans le protocole de séduction entre la France et l'Espagne? Quel est le pays le plus farouche, le plus sur la réserve?
En Espagne, elle est plus directe.
Ah oui?
Ouais, je trouve. Et ici en France, il y a quelque chose, plus qu'on tourne autour, tu vois. On est plus poli, on est plus parlé. Là, tu vois, en France, il y a plus les paroles. En Espagne, c'est...
Alors c'est plus précautionneux, plus cérébral, moins physique
oui,
qu'en Espagne.
C'est ça. En Espagne, c'est plus tactile, c'est plus direct, c'est plus sur la toucher, sur le regard, sur... ouais, c'est très différent.
Donc, on va dire que c'est plus sensuel de manière spontanée.
Oui, il y a plus de spontanéité.
Et plus cérébral
plus improvisé. Ici, c'est plus cérébral. J'arrive pas à le dire, tu vois. Et maintenant, tu me diras que ça, c'est mignon, que ça, c'est séduction aussi et tout ça. Mais pour moi, c'est pas des séductions, ça. Non, mais pour moi, c'est plus poli ici.
Et les femmes françaises sont assez différentes des femmes espagnoles?
Ah bah oui, énormément.
Et en quoi?
Bah, la femme espagnole, elle a plus de caractère. Elle est plus dure.
Ah
tu
oui.
vois, ouais. Ici, il y a un truc plus doux, plus soft, plus dans la caresse de la voix, comme toi, par exemple.
Ça y est, je vais rougir. Bon, Agustín Galeana, votre magnétisme et votre sourire font le bonheur des fictions télé.
Merci.
Mais vous ne renoncez pas au cinéma. Le cinéma, c'est la cible ultime, le cinéma?
Non, pour moi, la cible, c'est des beaux projets, c'est des beaux personnages avec lesquels je peux raconter une histoire. Défendre des histoires d'hommes aussi, parce que je pense que c'est important aussi de raconter les histoires des hommes fragiles, sensibles et qui ont des failles. Pas l'homme parfait ou les matchs espagnols, ça ne m'intéresse pas du tout. Et pour moi, le support, il n'est pas important. Pour moi, c'est important le message. C'est-à-dire aujourd'hui avec Netflix, Netflix a tout cassé, tous les codes. Et du coup, moi, le support, pour moi, ce n'est pas important.
En tout cas, l'aventure du cinéma, vous l'avez vécu il y a peu avec un film qui est une comédie romantique, applaudi d'ailleurs au Festival du cinéma francophone d'Angoulême, qui va bientôt sortir, une comédie baptisée Les Cobayes. Mm-hmm. Elle sera en salle, n'est-ce pas, le 25 novembre.
C'est ça.
Donc,
c'est ça,
c'est peut-être le début d'une carrière
J'espère bien, parce que moi, j'adore le cinéma. Comme je t'ai dit avant, j'allais 4-5 fois au cinéma quand je suis arrivé en France, à Paris. Et voilà, ce n'est pas l'objectif que j'ai de faire du cinéma, mais j'ai très envie d'en faire aussi.
Bon, c'est pas l'objectif, mais si Pedro Almodovar, tout à coup, vous appelait là sur
évidemment,
ce portable...
Évidemment, attends, il m'appelle.
Ça y est.
Bah, évidemment que je dirais oui, il y a plein de réalisateurs avec lesquels j'ai envie de travailler et plein de comédiens et comédiennes avec lesquels j'ai envie de travailler.
Alors, En attendant qu'Almodovar vous téléphone, Agustine,
j'espère bien, hein.
Vous allez être très, très présent sur TF1 puisqu'on vous retrouve dans une nouvelle série, cette fois-ci quotidienne. Ici, tout commence. Série qui est le spin-off de Demain nous appartient, c'est ça ?
C'est ça. C'est ça. On a commencé le tournage le 24 juillet. Ça sortira bientôt fin octobre, début novembre. Et c'est une série qui parle autour d'une école de gastronomie. Et on est tous là pour faire un très beau projet. Et je pense que ça va bien toucher les gens.
Alors,
c'est un super projet.
C'est une série quotidienne. Donc, le nouvel album Plein Soleil, vous allez avoir le temps de le présenter en tournée.
J'espère bien. Oui, oui. En fait, ma tournée, ça a commencé ce samedi, 10 octobre.
Oui.
Mais finalement, ça ne va pas être possible parce que le préfet de la région où j'y vais, il interdit les rassemblements de plus de 30 personnes. Et du coup, ça ne va pas être possible commencer ma tournée.
Alors, dites-nous, en Belgique, parce que j'ai vu des dates comme le 31 octobre au Trocadéro de Liège et le 1er novembre à la Madeleine à Bruxelles.
Ça a été décalé à
juin.
C'est repoussé. Oui, c'est repoussé à juin de l'année prochaine. Ouais. C'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. C'est un peu ridicule de ne pas ouvrir les salles, mais avoir les métros, les avions, les bus pleins. C'est vraiment... je ne comprends rien à cette histoire. Je vais devoir faire des concerts dans les avions.
Vous n'êtes pas le seul.
Ouais, j'imagine. Mais il n'y aura pas la place pour tous les artistes pour faire des concerts dans les avions. Je suis le premier. Hein.
Bon, en attendant, pour se réchauffer le cœur, le corps et l'âme, et rêver à l'été prochain, eh bien on peut écouter en boucle Plein Soleil, le nouvel album d'Agustín Galeana. C'était un bonheur, cher
Agustín.
Pour
moi aussi, je pourrais, comme je t'ai dit avant, quand on n'était pas dans le micro, en émission, je pourrais t'entendre toute la journée. Quelle jolie voix et quel bon moment j'ai passé avec toi.
Merci.
Merci.
Juste après l'info, Stéphane Bern et Mathieu Noël vous attendent pour Historiquement Vôtre. Europe 1.